In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous, et pour la 174e fois, bienvenue dans votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Dans un monde dont les dirigeants ne cessent de nous surprendre par leur inépuisable créativité en termes de brutalité, il faut savoir souffler, appuyer sur le bouton pause. Alors, quoi de mieux que la poésie pour retrouver du calme? Quoi de mieux que l'activité de nos mains pour libérer nos cerveaux de toutes ces pollutions, pour mieux retrouver notre équilibre? C'est ce que je vous propose de faire dans ce nouvel épisode de Entre les pages. Avec deux invités, Francisca Beyer-Laloré et Claire Gonzalez. Une heure pour respirer, une heure pour reprendre goût à l'humanité. Attention, ce n'est qu'un répit. Dès 18h, vous replongerez sans transition dans la normalité et dans le fracas des bombes. Alors profitez-en, cela dure 60 minutes, c'est entre les pages et ça commence maintenant. Bonjour Francisca.
Bonjour.
Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer sur le Salon d'Avrier à l'automne dernier. Je me suis arrêté à votre table pour deux raisons. L'illustration de la couverture de votre recueil et puis son titre bilingue, tout particulièrement celui en allemand, Lausch Goldfisch, que je n'arrivais pas à lire. Cela m'a fait remonter dans le temps, à l'époque où je résidais en Alsace. J'ai mis très longtemps à lire les noms des villes et villages alsaciens, tellement ils sont longs, au point de presque rater des sorties d'autoroute. Je mène n'importe qui au défi de lire d'un seul coup le nom des villages de Vöglinshofen ou de Souffelweyersheim, par exemple. Et le titre allemand de votre recueil m'a fait cet effet. Mais avant d'entrer dans votre recueil, Lausch Goldfisch, Brise âme, il est important que vous vous présentiez en quelques mots.
Alors, donc, Francisca Beyer-Laloré, je suis originaire donc, d'Allemagne, née à Mittweida, une petite ville saxonne en pleine campagne, on peut dire. Pas loin, par contre, de Leipzig, qui est la ville de Bar, que certains doivent connaître, au moins du nom. Donc, c'est là que j'ai fait mes études de lettres allemand et de français pour devenir professeur en Allemagne, au lycée. Et finalement, dans mes études, j'ai fait une année de césure, on peut dire, en tant qu'assistante d'allemand en Bretagne, à Lannion. Et ça m'a tellement plu, et pour plusieurs raisons. Je me suis toute réinventée là-bas. Et aussi, je suis tombée amoureuse. Donc,
ça, c'est une des grandes raisons. Ça.
aussi. Et donc, j'ai décidé de finir mes 2 ans d'études qui me restaient jusqu'au bac plus 5, qui est un examen d'état, pour devenir professeur. Et après, je n'ai pas fait mon stage de professorat en Allemagne, mais j'ai préparé les concours. Et donc, j'ai passé le CAPES et la GREG. Et je suis rentrée dans l'éducation nationale en 2006, à Laval, où j'étais professeur pendant plusieurs années au lycée Réaumur, avant d'avoir la chance d'être nommée à Angers au lycée Joachim du Bellay pour être coordonnatrice de la section Abibac, où je peux enseigner les lettres allemandes, ce qui sont ma passion, et aussi en prépa commerciale.
Belle carte de visite, comme quoi l'amour peut conduire à tout, même à Laval, ce qui est assez extraordinaire. Moi-même, j'ai passé quelques années à Laval, donc voilà, je connais plutôt bien. Pour nous, il y a toute une mythologie autour de l'Allemagne de l'Est, comme nous on l'appelait, la RDA, la République démocratique allemande. Les romans de John le Carré ou, plus proche de nous, le film La vie des autres. Mais vous aviez 12 ans, vous habitiez au fin fond de la Saxe, vous aviez conscience de l'immensité du bouleversement que représentait la chute du mur de Berlin ?
Absolument. Je vais vous expliquer. La chute du mur de Berlin, je suis toujours un peu allergique à Berlin parce que c'était la chute de toute la frontière PACA Berlin. Et beaucoup, beaucoup de Français et de jeunes Français qui apprennent ça, ils pensent que le mur est tombé qu'à Berlin, mais il est tombé tout le long du rideau de fer. Et là où ça a commencé, c'était à Leipzig, dans ma ville. Ça a commencé dans l'église Saint-Nicolas où les amis de mes parents ont préparé ça. Et moi, j'étais donc fille de pasteur, on peut dire, de théologien. Mon père enseignait à la fac de Leipzig la théologie, qui était paradoxalement pas interdite. Mais toutes ces personnes qui étaient au milieu de l'église étaient très, très observées. Et donc, déjà, j'avais 7 ans quand mes parents m'ont expliqué ce que c'est la Stasi et que je dois faire très attention à ce que je dis. Et j'étais un peu pipelette, donc c'était un peu dangereux. Et en plus, mes parents ne m'ont pas mis dans l'organisation des pionniers. Donc, j'étais la seule qui n'avait pas de foulard bleu dans ma classe et puis dans toute l'école. Et ça m'a forgée parce que j'étais quand même aussi, j'avais une période où j'étais très harcelée par d'autres enfants, pas de ma classe, mais du village. Et c'est paradoxalement aussi le principal qui était communiste, qui leur a passé un savon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de zones grises autour de tout ça. Et moi, j'étais très soulagée parce que aussi, il y a le frère de ma mère qui vivait à l'ouest, beaucoup d'amis qui vivaient à l'ouest. Et pour nous, c'était un immense soulagement. Et j'ai moi-même aussi manifesté un petit peu, pas la manif du 9 octobre où c'était vraiment, vraiment dangereux à Leipzig, où tout aurait pu basculer dans la guerre civile. Ce n'était pas à Berlin, c'était à Leipzig où ça aurait pu basculer. Mais après, le 9 octobre, avec mon père, dans des églises où on a chanté « We shall overcome ». Donc quand même, je suis vraiment très marquée et je témoigne aussi à mes élèves et à d'autres moments. Et ça, ça a fait toute une autre émission.
Eh bien, on va passer donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour vous, la poésie, elle est venue quand ?
Alors, avant que je puisse écrire, j'ai récemment retrouvé des petits vers sur un chat que j'avais écrit, en fait, à l'école primaire. Et après, surtout à l'âge d'adolescence, je dirais, à 13 ans, où je devais beaucoup exprimer mes sentiments. Donc oui, j'ai écrit depuis l'âge de 13 ans, mais vraiment beaucoup, et même aussi de la prose. Mais c'est la poésie qui l'a emporté après, notamment que j'avais 18 ans, j'ai déjà pu participer à un concours où un poème a été publié dans un recueil en Saxe, où j'étais très contente. Mais après, en partant en France, c'était difficile déjà de rester connectée au monde littéraire allemand. Et c'est par vraiment en passant un autre concours, en étant publiée dans une anthologie, qu'un autre poète a donné à mon éditeur mes poèmes. C'est comme ça qu'à l'âge de 35 ans, j'ai sorti mon premier recueil.
Donc ça, c'est, on voit l'émergence de la poésie, donc comme tous les adolescents, il y a un peu de romantisme, il y a un peu de... Voilà, on a besoin d'exprimer, de mettre ses sentiments sur le papier. Est-ce que, à cette époque-là, ou dans cette période de l'adolescence, il y a des poètes qui vous ont marqué ?
Ah oui, oui. Mm-hmm. Énormément. Justement, à la période de l'adolescence, c'était surtout Ingeborg Bachmann. Donc une femme écrivaine d'abord poète, très très, avec beaucoup de succès avec sa poésie et beaucoup plus qu'avec sa prose après, ce qui est aussi un paradoxe. Ingeborg Bachmann m'a beaucoup beaucoup marqué aussi pendant mes études et aussi Sarah Kirsch qui est pas trop traduite en français.
Ingeborg Bachmann, on la connaît parce
qu'il y a un magnifique recueil là que tout le monde peut lire en bilingue, toute personne qui tombe à des aises, toute sa poésie. Donc là, je recommande à tous ceux qui aiment la poésie. Ça m'a vraiment aussi beaucoup encouragée en tant que poète féminine et qu'on pouvait trouver sa langue. Puis, en fait, là, c'était vraiment l'adolescence.
Alors, le recueil dont on parle aujourd'hui, il est bilingue, enfin, bilingue presque. D'abord, le titre, Laos Goldfish. Alors, je ne suis pas convaincu de le dire correctement, mais ça, c'est mon... L'allemand, j'ai toujours une forme de résistance par rapport à l'allemand. Il y a un deuxième titre, c'est Brise âme en français. Alors moi, je me suis amusé, j'ai traduit Laos Goldfish avec Google Traduction. Et ça donne Poisson rouge tiède. Ça, c'est pas très très probant. En réalité, ça se traduit par alors, un poisson doré qui sait attentivement écouter. J'ai tenté un deuxième coup, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. C'est beaucoup mieux. Qui a traduit par « poisson rouge à l'écoute ». Alors, entre « un poisson doré qui sait attentivement écouter » et « brise âme », il est où le rapport ?
Alors, comme le « Laos Goldfish », il
Je le dis très mal, finalement.
Non, pas si mal. Oh, non, non. il a un triple jeu de mots dans « Laos Goldfish ». Donc, il y a déjà « Laoshen », qui veut dire « écouter attentivement ». Mais il y a aussi le mot « Rauschen ». Et « Rauschen », c'est le bruit de la mer. Et aussi le bruit du vent. Et il y a aussi le « Rauschgold ». Le « Rauschgold », c'est de l'or, de faux or.
Or de pacotille.
Or de pacotille, voilà. Et en fait, déjà, j'ai fait... Entre Lauschgold et Rauschgold, ce rapport, j'ai aussi réfléchi si je laisse le poisson de côté, si ça s'appelle que Lauschgold. Et d'ailleurs, le mot Lauschgold va apparaître dans le recueil aussi. Ce que c'est Lauschgold, Lauschgold, c'est quelque chose qu'on écoute qui nous enchante. Et Rauschgold, c'est quelque chose de faux, de pacotille. Et après, on avait Fisch qui est un personnage. Il y a aussi la muse qui joue un grand rôle, l'inspiration de l'auteur par d'autres personnes. Donc, je voulais quand même cette personne, en quelque sorte. Et après, j'ai dit, mais je ne pourrais jamais le traduire. Jamais je pourrais montrer tout ça. Alors, je prends toute autre chose qui a aussi un triple jeu de mots. Et ce qui a fait brise âme, brise l'âme. Donc là, j'avais la mer, j'avais le Rauschen, justement. Oui, la brise, le vent.
Alors, brise-âme, qu'on retrouve dans un des poèmes, c'est deux passages, celui en français qui s'appelle deux passages, et brise-l'âme, qui est dans un autre poème, qui s'appelle liquide.
Oui.
Donc, on retrouve ces mots. Maintenant, vous n'avez pas expliqué. Alors, si, on a compris que et vous expliquez vous-même toute ma difficulté avec l'allemand, cette faculté d'associer les mots, les adjectifs, enfin de faire des mots impossibles à traduire en français, ou du moins on a du mal à les comprendre, et c'est toute ma difficulté avec l'allemand. Je garde quelques notions, mais vraiment très très peu. Votre langue maternelle, c'est l'allemand. Le français, il est venu quand ?
Alors, justement, ça a un rapport avec la chute du mur. Parce qu'on n'avait pas le droit, avant, ou très très peu de gens avaient le droit d'apprendre le français. Et moi, j'avais une énorme chance, j'étais née vraiment au bon moment, en 90, donc juste après la chute du mur, il y avait tous les systèmes éducatifs à plat. Et il y a des personnes en Saxe, à Leipzig, qui se sont dit « on veut faire un essai ». On va faire une école pour de la musique et des langues. et on va demander les élèves le plus, les meilleurs élèves de toute la, tout le district autour de Leipzig. Et il y a une professeure qui m'a parlé de cela. Et j'ai fait un petit test, dictée, maths, chant. Et j'ai pu intégrer cette école avec une classe bah, de vraiment élèves très doués, qui étaient comme moi, un peu à l'écart des autres, et des professeurs extrêmement motivés. Et là, j'ai décidé, à ce moment-là, le russe, bon, j'avais perdu ma prof de russe parce qu'elle était restée à l'ouest. C'était une très, très bonne prof. Et après, c'était pas si facile à raccrocher. Je me suis dit, en russe, tu n'es... Mais j'avais des bonnes notes, mais je sentais plus trop. Je me suis dit, je vais apprendre le français parce qu'il fallait me décider entre les deux. Et en plus, j'ai pris latin et anglais en même temps. J'ai commencé à 13 ans à apprendre les trois langues. Et on était 5 en français et avec une professeure extrêmement soulagée de pouvoir enseigner enfin sa, cette langue. Et 5 heures par semaine. Et là, c'était intense, très intense. Et après, bah, j'ai décidé aussi de l'étudier bah, justement en tant que matière à la fac. Bien sûr, j'ai aussi adoré les chansons. Ça, j'ai toujours rêvé de Paris, même si Paris ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais rêvé. Et en fait, j'ai écouté les chants d'Edith Piaf et Georges Moustaki. Et il y avait une émission avec des chansons françaises. J'ai découvert plein de monde comme Véronique Sanson ou d'autres. Et donc, j'étais très, en fait, très, très bien. Déjà, en chanson française, j'ai impressionné mon père d'accueil lors d'un échange parce que je chantais toutes les chansons. Et je pense que ça, ça aussi a beaucoup fait mon amour.
Ouais. Alors, dans ce recueil, donc moi, je vais donner le titre en français parce que je ne vais pas m'épuiser à dire le titre en allemand, Brise âme. Il y a beaucoup de poèmes qui sont adressés à l'être aimé, mais l'être qui part ou qui est loin. Est-ce que c'est un recueil autobiographique ?
Alors, c'est toujours... on est bien sûr à des éléments biographiques dans tout poème. Mais c'est aussi... en allemand, on a le lyrisches Ich. On a le poète. En fait, on dit le poète en français, mais le poète, il peut se confondre avec l'auteur. Après, moi, j'aime bien parler de mon lyrisches Ich. C'est la voix qui parle, qui, évidemment, a affaire avec moi, mais il y a un autre niveau. Et on peut dire que je voulais... C'est peut-être pas un amour complètement naturel, ou si c'est un amour très naturel, mais je voulais mettre en scène un amour platonique, un petit peu différent, une relation un peu différente qui peut être très intense, mais qui se base sur la distance en quelque sorte aussi. Voilà, donc bien sûr que j'ai vécu ces émotions en quelque sorte, mais je voulais... faire un univers, je voulais universaliser ça, en quelque sorte.
Alors ça, on le sent bien, hein, parce que ça traverse quasiment pas tous les poèmes, hein, mais vraiment beaucoup. On parle de poésie, moi j'aimerais vous entendre. Alors je vais vous proposer un exercice. Ça va être de nous lire quelques poèmes. Alors je vais vous proposer de commencer par tentative et de les lire en français, puis pas en allemand. Mais le poème qui est en allemand et qui correspond au poème Tentative.
Très bien. Tentative. Le bruit de la mer au coin de ses yeux. Un bleu se plaît au vitrail d'une chapelle armoricaine. Les lumières hivernales tombent d'une zone de basse pression fissurée. Une par une, je lance les bougies de l'avant, puis les efface par celui qui m'anime, le vent. Et en allemand, Versuch. Ein Blau aus Augenwinkeln gefällt sich in Fenstern armorikanischer Kapellen. Vereinzelte Winterlichter fallen aus Rissen von Tiefdruckgebieten. Ich werfe die Kerzen an, lösche sie wieder mit diesem Wind in mir.
Est-ce qu'on peut maintenant lire un deuxième, L'île Tudy? Alors là, on part en Bretagne, là, vraiment.
Il Tudy. Ayant voulu fendre l'embouchure avec leurs chaussures, ils se sont noyés. En hiver, les laminaires balaient les ruelles. Latéralement, la digue actuelle n'y peut rien. Le linge de tous se tord autour le fil pour tous. De leur chaloupe, les pêcheurs d'ailleurs voyaient passer maisons et oiseaux. Il Tudie. Menschen ertranken, mit ihren Schuhen hatten die Mündung teilen wollen. Der Winter weht sein Algenlaub lateral durch die Gassen. Deiche von heute ändern nichts. Die Bettwäsche aller biegt sich um lange Leinen für alle. Von ihren Kuttern aus sahen Fischer von anderswo Vögel und Häuser vorbeitreiben.
Merci. Alors, je voulais qu'on fasse cet exercice avant qu'on démarre l'émission. Vous m'avez dit, oh ben non, je ne les lis pas en allemand. Non. Comment ne pas les lire en allemand? C'est pas possible de ne pas entendre cette langue pour au moins une raison que vous m'aviez expliquée. C'est que ces poèmes qui sont mitoyens, qui sont côte à côte, ne sont pas forcément la traduction l'un de l'autre. Ils sont chacun écrit différemment. Expliquez-moi le processus.
Ah oui, c'est juste. C'est d'abord, sauf exception, un seul poème, ils sont là en allemand. Parce que bon, c'est ma langue maternelle, ça vient aussi assez complexe, bien sûr, avec plein de métaphores, jeux de mots, différents niveaux. Et après, il y a le travail de la réflexion. Comment je vais transmettre ça? Comment je vais transposer ça? Et donc, vraiment, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire mot à mot? Et où il faut trouver un équivalent qui déclenche les mêmes sentiments chez le lecteur. Et donc, quelquefois, il faut que je renonce à une métaphore qui est très belle en allemand, mais qui dit rien aux Français ou qui fait rire les Français, ça, c'est compliqué. Donc, j'essaie de trouver des équivalents qui émeuvent de la même manière.
Donc ça, c'est les poèmes sont écrits en allemand. Il y a un retravail en français. Ce n'est pas forcément la même chose. Parce qu'effectivement, on se rend compte, je l'ai dit au début, il y a une... Ce sont deux langues qui se construisent complètement différemment. On est avec une langue latine du côté du français, puis une langue germanique du côté de l'allemand. Et donc, les constructions sont totalement différentes. Alors, et donc, cet exercice-là est très particulier. J'aimerais aussi qu'on parle, parce que c'est ça qui m'a accroché, de la personne qui a illustré ce recueil. Parce que moi, j'ai été accroché par un poisson. Alors, ça paraît complètement surréaliste, c'est un recueil de poissons, et il y a une magnifique peinture d'un poisson. Et en feuilletant, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des aquarelles. Alors, Frédéric von Kriegern, voilà, Kriegern, qui est cette femme?
Alors, cette femme est une traductrice, surtout de l'espagnol, une traductrice littéraire.
Là, c'est l'Europe qui se retrouve dans ce recueil. Là.
Absolument, c'est une Allemande qui vit à Berlin et que j'ai connue vraiment dans les réseaux sociaux. Parce que après, pendant le corona, il y avait une énorme recherche parmi le monde des auteurs. C'était aussi une solitude des artistes, je pense. Et c'est à ce moment que j'ai fait énormément de dialogues où j'ai commencé à me lier à d'autres auteurs par les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment, c'était très, très bien parce qu'il y a plein de projets qui sont nés comme ça, plein de choses que je n'ai pas osé avant. Et on a vraiment un certain groupe d'auteurs, d'artistes qui sont liés de cette façon. Et j'ai vu qu'elle dessinait. Et j'ai dit, mais ça me plaît beaucoup ce que tu fais. Je lui ai écrit, je ne l'ai jamais vu en vrai encore. Et est-ce que tu as envie d'illustrer mon livre? Et déjà, le livre d'avant, qui s'appelle Poussière de papillon, je l'avais aussi fait de cette manière avec une auteure peintre que j'ai connue aussi comme ça. Je savais que mon éditeur, il était preneur. Je savais qu'il allait dire s'il n'y avait pas des sommes énormes demandées, il allait essayer de le faire, et même en couleur. Ça, c'est aussi ça, c'est mon éditeur qui fait des beaux livres et qui est très idéaliste là-dessus. Et je lui ai proposé. Et en fait, Frédéric, elle a vraiment... Il y avait deux des 8 illustrations qu'elle avait déjà, mais les autres, elle s'est vraiment retirée une semaine au bord de la mer du Nord, je crois, où elle est originaire, et elle a dessiné, elle s'est fait inspirer par les poèmes. Et c'est vrai que le poisson qu'elle a dessiné, c'était exactement celui que j'avais imaginé avant. Il fallait qu'il soit bleu, il fallait qu'il soit doré. Elle m'a fait exactement le poisson que j'avais rêvé. Donc, je suis très, très contente de cette couverture, moi aussi, qui attire énormément le regard. Et aussi, ce qu'elle a fait en intérieur, il y a une magnifique plume avec du bleu ciel, il y a des poissons, différentes poissons, une méduse, en fait, autour de la mer, de l'eau. Et c'est grâce à elle que c'est vraiment rond. C'est vraiment le livre qu'il fallait.
Alors, c'est effectivement un très beau recueil. Les textes, moi, j'ai beaucoup apprécié votre écriture. Alors, je vous avais demandé de venir avec des livres, mais ben, voilà, on va pas. Le temps passe beaucoup, beaucoup trop vite. Et donc, on va faire quand même une première pause musicale.
عاشقة الورد إن كنت على وادي يا عاشقة الورد إن كنت على وادي فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد حيران أينتظر والقلب بيتعجر سابحة في شفقي فهيامك لن يجدي يا عاشقة الورد إن كنت على وادي يا عاشقة الورد إن كنت على وادي
C'était Agathe Odell qui a chanté Ya Hashikat Al-Wardi, l'amoureuse des roses. Vous êtes sur Radio G, fréquence 101.5 et vous avez bien de la chance. Et vous écoutez entre les pages. Après la poésie de Francisca Beyer-Laloret, c'est dans un tout autre univers du monde des livres en Anjou que je vous propose de vous rendre. Celui de la reliure, avec Claire Gonzalez. Bonjour Claire Gonzalez.
Bonjour.
C'est toujours dans ce salon d'avrier que je vous ai rencontré. Nous sommes en 2026, à l'heure du tout numérique. Je ne crois pas qu'on relie des smartphones, des tablettes ou des liseuses numériques. Alors la reliure, c'est vraiment sérieux ?
Tout à fait. Oui.
Oui. Ce goût pour les livres, et là c'est les livres en tant qu'objet. Il est né d'où ?
Alors, c'est une suite de hasard, finalement. J'ai fait mes études, alors je suis originaire de Mayenne, j'ai fait mes études à Nantes en histoire de l'art. Et là, j'ai rencontré différents artisans de tous bords, architectes, enfin, architecture, taille de pierre et reliure. J'ai rencontré cette femme à Rennes qui m'a donné l'envie de découvrir la reliure et ce monde de l'artisanat. Et suite à ça, j'ai découvert qu'il y avait un lycée Tolbiac à Paris où on pouvait passer le CAP et le brevet des métiers d'art reliure dorure. Et c'est là que vraiment ça a été un peu une révélation pour moi.
Donc ça, c'est le démarrage.
Oui.
Voilà, tout d'un coup, on travaille, on voit l'objet se faire et puis on y touche un peu. Vous avez suivi quel parcours, quelle formation vous avez fait ? Qu'est-ce qu'on fait comme formation pour être relieuse ?
Alors d'abord, passer le CAP. Donc, moi, je l'ai passé donc en un an parce que j'avais déjà le bac. Donc, c'était que de la pratique. Donc, 20 heures de reliure, de la dorure, de l'histoire de l'art, de l'histoire du livre, ainsi que des arts appliqués. Voilà, donc ça, c'est pour le CAP. Et ensuite, le brevet des métiers d'art, hein, qui se fait en 2 ans. Donc, on continue à apprendre différentes techniques de reliure. La reliure, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de techniques différentes. Et pendant ces 2 ans de brevet des métiers d'art, on travaille sur un projet qu'on présente devant un jury à la fin de l'année. Et aussi, on fait des stages, 2 stages de 6 semaines. Donc, on choisit chez un artisan, enfin voilà. Et donc, moi, j'ai fait mes 2 stages, un aux Archives nationales à Paris et l'autre au Château de Vincennes, pour apprendre vraiment la restauration. À l'école, on n'apprenait que la reliure et pas la restauration. Et la restauration est un autre domaine de la reliure.
Ouais. Alors, juste un petit éclaircissement. Le nom de votre atelier, c'est de C à Z.
Oui.
Dans votre alphabet, il n'y a pas de A et de B ?
Non. Non, mais c'est tout simplement parce que je m'appelle Claire Gonzalez.
Voilà. Avec un Z.
Voilà, c'est ça.
Donc, le mystère s'est éclairci.
C'est ça.
Alors, on a une vision extrêmement biaisée de la reliure. Des vieux livres, des contre-couvertures marbrées, des lettrages dorés. Est-ce que ce n'est que vraiment ça, la reliure ?
Non, la reliure, c'est plein de choses. C'est vrai que quand on imagine une bibliothèque, on voit ces vieux livres marrons avec des bosses sur les dos, ce qu'on appelle des nerfs, la dorure. Voilà, là, on est vraiment dans le classique de la reliure. Mais la reliure, c'est aussi des papiers marbrés faits main avec des couleurs très flashy. Ça peut être aussi des reliures japonaises avec cette couture à l'extérieur qu'on peut voir aussi, qui est un livre différent, qui est plus pour des ouvertures bien à plat, pour des livres de photos notamment. Ça peut être des carnets avec des papiers fantaisie comme on peut faire plus rapidement et puis qui ont un aspect plus moderne aussi. Voilà, la reliure, c'est tout ça, en fait. C'est une multitude de choses.
Il y a une part de création ?
Oui, un peu. Oui, tout à fait, oui.
Alors, quand je parle de création, il y a la création sur les matières,
hein,
les couleurs, mais même dans la structure de la reliure, dans la conception de la reliure. Est-ce qu'on essaye d'imaginer des nouvelles formes de reliure ?
Alors, La plupart du temps, on va rester sur des formes classiques parce que les gens veulent pouvoir les ranger dans leur bibliothèque, tout simplement. Mais ça m'est arrivé, notamment, j'ai travaillé sur deux reliures très différentes, une sur l'oiseau bleu. Et donc, j'avais donné la forme d'un oiseau, donc avec des ailes. Donc, quand on ouvrait le livre, il y avait les deux ailes qui s'envolaient. Et donc, voilà, il y avait une forme différente et avec des matériaux un peu plume, voilà, pour vraiment avoir cette sensation d'oiseau qui s'envole. Et j'avais mon livre de diplôme, ça a été un livre d'une bande dessinée qui s'appelle Au boulot des chapelets. Et je n'ai pas voulu travailler sur le livre en lui-même parce que je le trouvais super.
C'est en référence avec les têtes raides ?
Oui,
c'est
les têtes raides et la tordue.
Voilà,
oui.
L'atelier des têtes raides, les chapelets. C'est ça,
exactement.
Hein,
oui,
oui, oui.
Et je suis une grande fan des têtes raides de la tordue.
Alors vous êtes une amie.
Ah, d'accord. Et de leur univers graphique, donc qui était fait qu'à partir de matériaux de récupération, des collages avec des photos de collages et de sculptures. Et mon diplôme, mon sujet de diplôme, c'était donc ce livre-là. Et donc, j'ai fait plutôt quelque chose autour de ce livre-là. Donc, j'ai récupéré une vieille malle, j'ai récupéré un vieux soufflet d'accordéon.
Ah bah
et
oui.
J'ai fait des manivelles et des choses comme ça. Voilà.
Obligatoire et avec les têtes raides.
Voilà, c'est ça. J'ai fait un mini-atelier où on pouvait allumer la lumière. Et voilà. Oh. Enfin, voilà, j'ai, donc, tout ça pour dire que c'est possible de faire autre chose que des livres de format classique.
Et vous n'êtes pas venue avec ?
Ah ouais, il est très, très gros. Il est difficile à transporter. En fait.
Ah, quel dommage. Me voilà frustrée. Donc, vous avez parlé, il y a dit... Alors, là, rien que là, l'ouverture que vous faites, c'est tout d'un coup, vous nous dites, ben non, la reliure, ça peut prendre plein de formes. D'après ce que je comprends du travail dont vous parlez là, il y a aussi la notion d'emboîtement, c'est-à-dire qu'on peut... le livre prend une autre dimension parce qu'on va l'insérer dans quelque chose, on va l'inscrire dans quelque chose qui va lui donner une nouvelle dimension.
Oui, tout à fait, oui. Hein oui.
Alors vous êtes venu avec une pile d'ouvrages, une pile de travaux, parce que j'imagine que ce sont des travaux. Vous pouvez nous en présenter quelques-uns, et puis après on passera à un exercice, parce que moi je vais vous faire faire un exercice.
D'accord, bon écoutez. Alors, donc là je suis venue avec différentes reliures, ouais. Juste pour montrer l'étendue.
Ouais.
Donc là on parle de, là devant moi, donc il y a la reliure médiévale, c'est une reliure qui donc était faite au Moyen-Âge, ouais. Et donc, les cartons n'existaient pas au Moyen-Âge, donc on utilisait du bois. Donc, les plats étaient du bois.
Donc, Claire est en train d'ouvrir un livre avec des gros clous dessus, avec un fermoir, et la couverture est en bois.
Voilà, c'est ça, recouvert de cuir, cousu sur des gros nerfs, c'est-à-dire des grosses ficelles qu'on voit sur le dos.
Mm-hmm.
Donc, on appelle ça des nerfs parce qu'au tout début, la couture était vraiment réalisée sur des vrais nerfs de bœuf. Et ça a évolué, forcément. Après, c'est passé sur des lanières de cuir ou des septins. Mais on a toujours gardé cette terminologie-là. Et ensuite, recouvert de cuir. Et effectivement, avec ce qu'on appelle des cabochons, les gros clous qui sont dessus. En fait, ces cabochons n'étaient pas là que pour décorer. C'était aussi parce que les livres au Moyen-Âge étaient très grands et très lourds. Donc, ils n'étaient pas posés debout dans une bibliothèque. Ils étaient posés à plat sur des étagères. Et en fait, pour pas que le cuir moisisse... Les clous permettaient de surélever le livre
d'aérer.
Et que l'air circule.
Ah, oui.
Et voilà, donc ça avait vraiment cette fonction-là.
Oui.
Voilà. Donc là, on est vraiment dans le médiéval avec effectivement un fermoir. Donc c'était soit métallique, soit en lanière de cuir. Voilà pour cette partie-là. Et après, la reliure, c'est comme je disais aussi, la reliure japonaise, qui est aussi une reliure où on voit la couture à l'extérieur, donc quelque chose un peu plus moderne, et qui permet surtout une ouverture, comme je disais tout à l'heure, bien à plat pour vraiment bien voir les objets, les photos.
Dans la reliure japonaise, comment on fait pour que ça ne se casse pas ? Parce que la couverture est donc cousue,
oui.
Ça veut dire qu'on a une bordure très large qui relie.
Oui.
Mais comment ça ne se casse pas ?
Alors, en fait... Pour rentrer dans les détails techniques.
Oui, entrons dans les détails techniques.
Oui, alors, dans la reliure traditionnelle, en général, tout est cousu. Voilà. Mm-hmm. Donc là, les cahiers, donc ce sont des pages qui sont pliées, sont elles-mêmes, ces cahiers-là, sont eux-mêmes cousus sur d'autres morceaux de papier qui sont là, mm-hmm. qui sont après collés et recousus par une couture finale. Les trous sont faits à la perceuse et on va rentrer dans ce bloc... Ici, de papier collé.
Ça fait un très gros bloc.
Voilà, mmh. Et c'est ça qui va faire que ça va être solide. Et là, pour le coup, on peut ouvrir vraiment à plat dans tous les sens. Oui. Et ça sera solide et ça permet surtout une ouverture quand on pose. Alors, la reliure japonaise est pas mal, notamment pour les reliures, pour les architectes ou les étudiants qui sont en architecture et qui ont un diplôme à présenter. Ils ont des grandes planches, des grandes photos à présenter. Et là, ça permet d'avoir une ouverture bien à plat et bien ouverte.
Alors, reliure japonaise, mais pourquoi japonaise ?
Parce que ça a été inventé là-bas, au Japon. Tout simplement.
Ben voilà.
Oui, oui, oui.
La réponse est dans la question. Ensuite,
vous... Oui, ben là, après, forcément, on parlait des vieux livres plutôt classiques. Donc là aussi, j'en ai amené quand même, hein, parce que j'en fais quand même très, très souvent.
Oui.
Donc là, on peut voir un livre donc, qui est tout recouvert de cuir, qui est donc avec des papiers marbrés. Donc des papiers marbrés, je travaille quelquefois avec des marbreurs. Donc les marbreurs sont des gens qui fabriquent du papier. Et ils peuvent des fois reproduire aussi des papiers anciens ou réaliser des papiers récents ou nouveaux, un peu comme on veut aussi. Et donc voilà, donc là c'est aussi un papier comme ça, avec une dorure sur le dos du long.
Très chargé, ouais.
Voilà, avec des motifs répétés pour faire cette dorure-là, avec le titre et l'auteur, c'est ce qu'on veut en général. Et là, on peut voir aussi sur le dos, il y a des petites taches rouges. Et ces taches rouges-là, ce sont en fait des mosaïques. C'est-à-dire que j'ai gratté des petits ronds et j'ai rajouté des ronds rouges sur le dos. Donc, c'est ce qu'on appelle de la mosaïque de cuir. Ça s'apparente un peu à, en ébénisterie
à la marqueterie.
Voilà, c'est
alors
ça.
Là, vous êtes en train de tenir donc un livre qui est un format assez grand. Le livre classique de bibliothèque, on va dire.
C'est-à-dire
que quand on entre dans certaines bibliothèques, on voit plein de dos de livres. Oui. Là, on est dans le classique avec une boîte.
Avec un étui.
Un étui qui est fait avec le même papier marbré que les contre-couvertures. Hein. Exactement sur les mêmes choses. Sur ce livre-là, vous êtes donc intervenu sur la couverture, mais le livre, il a été démonté ?
Oui. Alors, en fait, dans la reliure, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes.
Oui.
Il y en a 25 grandes et j'ai un élève qui avait compté. En tout, il y a à peu près 90 étapes, si on devrait tout compter.
Ah.
Et donc là, quand on a un livre, effectivement, on va soit commencer à le démonter, à le défaire, et on va coudre les cahiers ou les pages entre elles. Ensuite, après avoir cousu l'ensemble, on va consolider le dos, lui mettre un peu de colle pour après l'arrondir. Donc avec un marteau et dans un étau, on va taper sur le dos pour lui donner cette forme arrondie. Ensuite, on va rajouter les cartons qui vont être fixés grâce aux liens de couture. Tout ça est très technique, mais voilà, ça permet à l'ensemble de tenir. Et ensuite, il y a beaucoup de ponçage aussi en reliure, on ne se rend pas compte, mais le dos, pour avoir quelque chose de bien lisse, régulier, etc., on va mettre des papiers dessus qu'on va venir poncer par la suite. Et pareil pour les plats. Là, pour ne pas sentir les bosses qu'il y a ici, on va rajouter des papiers qu'on va poncer. Là, quand il y a du cuir, on veut que ça soit un peu cambré, donc on va aussi... poncer sur les bords, etc., mettre des papiers pour cambrer l'ensemble. Et ensuite seulement, on met la couverture, on fait la couverture, c'est-à-dire avec du cuir, là en l'occurrence, mais ça peut être de la toile, du papier, c'est à peu près tout. Et après, on finit par la dorure et les gardes intérieures. Voilà, dans les grandes étapes de la reliure.
Alors, sans vous tendre de piège, moi je suis venue avec un livre. Alors ce livre, je l'ai trouvé il y a 15 jours. Dans une boîte à livres, parce que je suis un habitué des boîtes à livres, je prends des livres dans les boîtes à livres. Alors, c'est un livre qui date, alors, première édition 1938, deuxième édition, celui-ci, l'édition est de 1956, donc il a 70 ans. On voit bien la couleur du papier. Ouais. C'est un livre qui s'appelle Verdun. Je vous mets un peu à l'épreuve. si je vous apportais ce livre... Est-ce que vous seriez prête à dire bah oui, ça c'est il y a un travail à faire là-dessus quoi. Et vous feriez quoi? Alors le livre, il doit être édité chez Flammarion, je pense à l'époque.
Oui, c'est ça.
C'est Flammarion.
Oui.
Il y a une couverture, une jaquette qui est encore présente.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce que vous feriez? Quel geste vous feriez pour que ce livre redevienne fréquentable?
Alors après, la grande question, c'est savoir comment vous voulez l'avoir. Est-ce que vous voulez le garder comme ça, broché, ou est-ce que vous voulez le relier? Déjà, ça, c'est la grande question.
Ouais.
Donc là, si on était parti, si vous me disiez, là, je voudrais le relier.
Oui, le relier. Classique. Moi, je pense qu'il y a, à mon avis, il y a un travail de reliure à faire.
Oui, bah, tout à fait. Voilà. Donc moi, la première chose que je fais quand quelqu'un m'amène un livre comme ça à l'atelier, je le manipule pour voir déjà s'il est en cahier, comme je vous disais tout à l'heure, voir si les pages sont repliées. Ou si c'est comme par exemple pour les livres de poche ou certains livres, que des dos collés.
En 56, ça n'existait pas. Non, là, on n'avait pas encore inventé la colle.
Ils sont en cahier, donc ça me permet de l'ouvrir, de le manipuler. Et là, je vois que là, c'est bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Et ensuite, au niveau de la qualité du papier, donc il est un peu acide, c'est-à-dire que la colle qui a été faite pour faire le papier est un peu acide, mais bon, ça reste tout à fait correct. Il est un peu cassant, mais là, pour faire ce type de reliure, ça pose absolument aucun problème. Donc là, dans l'idée, ça va être de le démonter, donc c'est-à-dire de défaire. On ouvre, on regarde, on essaie de repérer les ficelles.
Vous avez tout coupé ?
Ah bah oui, on commence par tout démonter.
Ah bah.
Eh oui.
Waouh.
Donc là, voyons, j'essaie de repérer les ficelles. Ouais,
les milieux de cahier.
Voilà, des milieux de cahier. Mm-hmm. Une fois que je les ai repérés, alors je regarde aussi la colle qui a été utilisée avant, parce qu'il y a différentes colles qui ont été utilisées, qui ne sont pas toujours très évidentes. Surtout quand le livre a aussi déjà été recollé derrière, et je crois que ça a été le cas.
Ah.
Et voilà, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais là, avec mon scalpel, je vais défaire les ficelles qui sont au centre. Et là, je vais le faire pour tous les cahiers.
Mm-hmm.
Donc, je vais le démonter, nettoyer, enlever la colle qu'il y a sur les fonds de cahier, éventuellement faire des réparations, parce que quand on enlève, ça des fois déchire les fonds de cahier. Donc, avec du papier Japon, je vais couper des morceaux de papier que je vais mettre sur le fond du cahier pour consolider ça.
Oui, parce qu'il y a déjà des trous, donc il va falloir refaire des trous.
Et après, on va venir éventuellement ébarber, c'est-à-dire couper un petit peu tout autour parce que là, on voit que c'est un peu...
Ah bah là, c'est à l'ancienne, hein, là, c'est vraiment à l'ancienne.
Donc à la cisaille, on va venir couper à chaque cahier, donc cahier après cahier, sur le côté, donc ça s'appelle la gouttière, le bas d'un livre, ça s'appelle la queue, et le haut d'un livre, ça s'appelle la tête.
Ça, je m'en doutais un peu.
Voilà.
La queue, je ne pensais pas, mais la tête, j'étais sûre que c'était ça.
C'est ça, exactement. Donc, on va venir ébarber les trois tranches.
Oui.
Et ensuite, on va venir grecquer à différents endroits. Donc, le grecquage, c'est le fait de scier le dos à différents endroits pour pouvoir ensuite faire la couture. Le fait de scier, ça va percer les fonds de cahier qui vont nous permettre après de faire la couture avec du fil de lin sur un cousoir.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Donc, et ensuite, bah, comme je le disais tout à l'heure, on met de la colle sur le dos et ça va nous permettre après de faire un arrondi, comme on peut le voir sur les livres anciens.
Oui.
Ils sont tous arrondis. Donc, ça se fait, l'arrondi, en fait, il se fait quand on coud un livre. Donc, on va rajouter un fil de lin entre chaque cahier. Donc, ça va faire monter le dos. Et donc, il va avoir plus d'épaisseur au niveau du dos que par rapport à la gouttière. Et c'est ça qui va faire... On va pouvoir avoir une sorte de champignon et qu'on va pouvoir travailler l'arrondi du livre.
Cet arrondi qui laisse un vide entre le dos du cahier et le dos du livre, en réalité.
Ouais.
Est-ce que c'est une fonction, quelle fonction cet arrondi ? Est-ce que c'est pour ventiler le cahier ? Est-ce que c'est pour mieux ouvrir le livre ?
C'est pour mieux ouvrir et c'est surtout que ça va être plus solide par la suite parce que cet arrondi, alors je n'ai pas amené de livre comme ça, mais il va former ce qu'on appelle un mors, M-O-R-S. Ça va être une petite, il y a le rond et une petite encoche et cette encoche va permettre de mettre un carton dessus. Mmh. Et le carton va se mettre contre ce mors et les ficelles de couture qui nous ont permis de faire ça vont rentrer dans les cartons et c'est ça qui va faire la solidité de la reliure. Ça s'appelle une passure en carton. Et donc, dans la reliure, il y a différentes techniques. Il y a la passure, il y a l'emboîtage. Voilà, il y a différentes techniques. Mais la passure en carton, c'est celle qui est la plus solide.
C'est votre métier, donc vous allez me conseiller.
Oui.
Moi, je vous ai apporté un livre. Je vous ai apporté un livre avec une jaquette. Vous me conseilleriez quoi ? Soit de retirer la jaquette complètement et puis de travailler sur le livre. Qu'est-ce qu'on en fait de cette jaquette ?
Alors, en général, c'est vrai que la jaquette, je ne la garde pas forcément. Ça, c'est au choix du client. Moi, les couvertures, par contre, qui sont présentes, on les garde toujours.
Mm-hmm.
Les couvertures recto et verso, elles vont être fixées à l'intérieur de la reliure. On garde toujours un maximum de choses, même les dos. Donc là, il n'y a plus rien sur le dos.
Il a souffert.
Mm-hmm. Donc là, mais on aurait pu le garder. Mm-hmm. Et la jaquette, soit on récupère, Par exemple, là, souvent, il y a des rabats où il y a des,
Des informations.
Des informations. Mmh. Donc, soit on les garde et on les monte dans le livre, soit on les met à côté, on les plie et puis on les donne aux clients comme ça, en fait. Donc, ça, c'est au choix. Mais en général, on ne la jette pas. On la garde. Donc, soit on l'insère dans le livre, soit on la monte, soit on la donne à côté.
Avant de finir cette conversation, de quel travail vous êtes le plus fier ? Un travail qu'on vous a confié comme ça et dont vous êtes vraiment extrêmement fier ?
J'ai travaillé avec un client à Toulouse. J'ai eu mon atelier longtemps à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Et j'ai travaillé avec un client qui était collectionneur de livres et qui m'avait confié un livre sur Joséphine Baker. Et c'est un très joli livre avec beaucoup d'illustrations à l'intérieur. Et il m'avait demandé de graver des illustrations de Joséphine Baker sur la couverture. Et j'avais tout un tas de petits livres à faire. Et donc voilà, c'était toute une série de livres en cuir et avec des incrustations, des mosaïques et après avec un peu de dorure aussi sur des motifs ou des illustrations qui étaient prises à l'intérieur du livre.
Et quand vous avez travaillé en restauration pour les monuments, vous avez été en stage
aux archives nationales.
Aux archives.
Oui.
Vous avez travaillé sur quel type d'objet ?
Alors plutôt des livres ils nous donnaient, on faisait des exercices, hein, donc on était plutôt sur des reliures du 18e, dans la restauration, apprendre toutes les techniques de restauration. Mais j'ai pu voir, est-ce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, donc qui était salarié là-bas, qui travaillait sur le testament de Napoléon. Et quelqu'un d'autre qui travaillait sur le procès de Jeanne d'Arc. Donc j'ai pu voir ces documents qui étaient en cours de restauration. Et donc c'était rigolo de pouvoir aussi lire des choses comme... Napoléon avait même dans son testament, même ses caleçons étaient indiqués. Et Jeanne d'Arc, ce qui était intéressant, c'est que son portrait avait été dessiné. Sur le procès. Et donc, c'est peut-être la seule illustration qu'on a d'elle.
Claire Gonzalez, je vous remercie d'être venue jusqu'à Radio G.
Avec plaisir.
Voilà une belle leçon que vous avez faite. C'est un exercice anti-radiophonique, mais que j'ai essayé de rendre le plus radiophonique possible, parce que c'est passionnant de vous écouter, parler de ce métier. Alors moi, je suis passionné de livres, et donc effectivement, j'ai appris beaucoup sur ces fameuses reliures de livres de poche qui sont collées et dont les cols ne tiennent pas et les livres explosent. Donc voilà, j'étais ravi de cette rencontre parce que c'est vraiment passionnant et on va faire une deuxième pause musicale.
Et si le monde s'écroule autour de toi et que tu vibres un peu moins chaque fois, bombe s'écrase au sol, étouffant les cris des hommes et des femmes qui faisaient la vie de ton quartier. Le silence remplace la voix de tes aînés. Et même si l'espoir reste permis, ils ont enlevé déjà bien trop de vie. Pour une raison ou une autre, rien ne pardonne la faute. Du sang coule sous les dalles de béton armé. Un cri s'échappe du sol, encore un condamné. Si les images nous parviennent chaque jour, rien ne remplace la peur et ses vautours. Ils jouent avec ton âme, te laissent crever dans les flammes d'une école où jadis tu rêvais d'avenir. Que l'homme est cruel quand on lui laisse le droit de nuire. Pour une cause qu'il pense juste, une histoire de terre promise, un peu confuse. Aucune leçon n'est apprise. On répète les mêmes erreurs, jour après jour, heure après heure. Toi petite, tu respires encore. Au moment où j'écris ce texte avec mon cœur, puisses-tu pardonner ce monde pour la violence que tu subis dans ta chair la plus profonde. Le repos t'attend peut-être dans quelques secondes. J'entends le tir du mortier assassin. Une explosion et puis plus rien.
C'était Max von Kehr qui chantait La Petite de Gaza. Dans ces temps insupportablement brutaux que de jeunes artistes tente de poser leurs mots sur la violence du monde est rassurant. Et Max von Kehr le fait délicatement et avec intelligence. Mais c'est la fin d'Entre les pages. Avant d'éteindre les lumières du studio, quelques rendez-vous à venir. Le vendredi 24 avril, courez à la rencontre avec Mathilde Bosseau pour son livre « La colline » paru au Seuil. C'est à la librairie La Cohue à Angers. Mais il faudra vous couper en deux, puisque le même jour, 24 avril à 18h, au passage culturel à Cholet, c'est une rencontre apéro dédicace avec Yvan Péot, auteur entre autres de « Une étoile au veau Michelin », publié aux très bonnes éditions « Les fourmis rouges ». Le mercredi 29 avril à 19h à la librairie Lériot, rencontre avec Catherine Bardon autour de son roman « Un rêve immense » paru chez Flammarion. Au cours de l'émission, vous avez entendu Agathe Odel qui a chanté « Ya Hashikat Alohardi, l'amoureuse des roses » et avec l'excellent Philippe Régaud au piano et Max von Kehr qui a chanté « La Petite de Gaza ». Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 6 mai à 17h avec deux rencontres. Salim Atala Chitaoui, en résidence à la maison Julien Gracq, et Andreas Lemaire, le responsable de la librairie Myriagone. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis l'incontournable magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.